Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents ce matin. Merci à nos intervenantes. Nous allons commencer donc cette riche matinée par un échange en deux temps autour de, cette fois, la question des strates laissées par le passage du temps, la complexité historique incarnée dans les sites, les monuments, les paysages. Nous parlerons d'occultation volontaire de certaines parts du patrimoine pour des raisons historiques ou parfois même politiques. Et nos intervenantes vont questionner ce matin le rôle des professionnels du patrimoine dans le choix de protection ou de restitution de ces strates historiques, les différentes stratégies qui peuvent être employées pour pallier aux absences. Nous accueillons donc Servane Ardouin-Delorme. Vous travaillez actuellement à la direction du développement culturel du château de Versailles et vous dirigez également l'ONG et média associatif Bagalade, les humains du patrimoine, qui se propose, je cite, de raconter le patrimoine sous un angle humain et les histoires de celles et ceux qui sont attachés à leur patrimoine. Vous êtes spécialisée en égyptologie à l'université d'Oxford. Vous avez mené une étude à la fois historique, patrimoniale et anthropologique sur la nécropole de Thèbes et son occupation post-pharaonique, dont vous allez nous parler maintenant. Et votre communication va proposer de redécouvrir en fait les nombreuses strates d'occupation de ce site archéologique dont les traces sont aujourd'hui en partie volontairement effacées. Nous allons ensuite, dans un deuxième temps, accueillir une communication conjointe proposée par Lily Davenas et Marie-Blanche Pott, qui nous font le plaisir de venir de Lyon. Donc, Lily Davenas, vous êtes conservatrice des monuments historiques à la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et Marie-Blanche Pott, vous êtes conservatrice générale du patrimoine, conservatrice des monuments historiques adjointe, en charge du site de Lyon, également à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous allez donc aujourd'hui discuter avec nous de la question de l'absence et du manque, par le biais de la déontologie de la restauration, cette fois, des dilemmes que rencontrent parfois les conservateurs et conservatrices du patrimoine face à l'histoire longue en fait, et complexe des monuments dont elles et ils ont la charge. Et vous vous centrerez donc sur deux projets de restauration, un achevé en 2016 et l'autre encore actuellement en cours, il me semble. Donc, je laisse tout de suite la parole à Servane Ardouin-Delorme qui va commencer.
Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je travaille au château de Versailles, mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est absolument pas lié au château, mais donc davantage au travail que j'ai pu effectuer il y a quelques années maintenant à l'Université d'Oxford, donc à l'Institut des études orientales, qui a depuis été renommé études moyennes orientales, mais c'était assez 19e comme titre. Mais... Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un paysage qui est la nécropole thébaine, qui se situe sur Thèbes Ouest. Mais avant ça, je voulais quitter l'archéologie une minute pour passer plutôt du côté de l'anthropologie des paysages. J'emprunte à l'anthropologie une vision des paysages qui n'est pas que topographique, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur cette image, mais empreinte de conceptions culturelles et sociales. Je pars du principe que des paysages sont des espaces habités par des communautés, mais également des façons de voir le monde, des expériences, des représentations qui sont produites par le regard humain et qui comprennent également des éléments imaginés, idéalisés, de sorte qu'un paysage combine des réalités vécues et des modes de vie potentiels, forgés par des expériences, des émotions, des souvenirs passés et présents des individus et groupes qui les ont habités. Ainsi, un paysage évolue nécessairement, pas seulement dans son altération physique ou archéologique ou naturelle, mais également dans ses significations culturelles et sociales, puisque différents individus et groupes habitent un paysage, et en l'occurrence ce paysage à travers les époques, et puisque différents individus interagissent différemment selon leur contexte avec un paysage, alors un paysage évolue constamment parce qu'il est constamment réinterprété, réévalué, réutilisé par des groupes culturels et sociaux. On peut donc dire qu'un paysage qu'on regarde ici en 2023 ne serait pas que cette représentation fixe, mais bien le résultat de tous ces usages passés. Et c'est là que j'en reviens à l'archéologie, puisqu'on pourrait le traduire plus ou moins en parlant de strates et de stratigraphie, qui ne sont pas seulement des cailloux, mais aussi des strates d'usage et d'interprétation de ce paysage qui évolue à travers les années. Et donc, ce paysage thébain, donc il est l'un des sites archéologiques les plus connus d'Égypte, les plus fouillés, les plus visités. Il se compose donc d'une rive est, où l'on trouve Louxor, Karnak notamment, et puis d'une rive ouest, qui est celle que j'ai étudiée, qui est moins urbanisée, le désert est beaucoup plus proche, et donc il se compose de plusieurs types de patrimoine assez emblématique, donc d'une part des temples qui sont donc alignés entre cette zone qui sépare la plaine du désert, donc des temples pharaoniques construits dans cet alignement que montre assez bien cette reconstitution imaginée, et puis des tombes, donc sur tout le versant des collines et de la montagne, on a des tombes de nobles qui ressemblent à des petites portes ou à des caves vues de l'extérieur, qui ont été construites, qui ont été érigées plutôt donc à l'époque du Nouvel Empire, entre moins 1500 et moins 1000 avant notre ère. Donc ça, c'est une époque où Thèbes est vraiment la capitale de l'Égypte, a une importance économique et puis religieuse, puisque le dieu local est le dieu d'État. 4000 ans plus tard, Thèbes est le site touristique phare d'Égypte, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son histoire pharaonique est vraiment clé. C'est elle qui a assuré le développement touristique et même urbain de la ville, et notamment de la ville Est. Mais je suis partie d'un constat que depuis les années 2000, on observe plusieurs démolitions. Des démolitions de patrimoine et d'habitation sur les deux rives, notamment d'un village qui s'appelait Gourna, qui a été détruit entre 2005 et 2010 par des bulldozers. Et donc, ça s'inscrit dans un plan plus large de développement urbain qui vise à faire de Thèbes un musée en plein air consacré au tourisme. Et donc, ce que je vais vous raconter, ou tenter de vous raconter aujourd'hui, c'est que ce site patrimonial qu'on tente de nous présenter, cette nécropole des morts, cette cité des morts pharaoniques, c'est une expérience qu'on veut authentique, mais qui a été construite à travers les années et qui n'est pas un reflet de l'histoire et des expériences de ce paysage. Ce paysage a été presque occupé en continu depuis l'époque pharaonique, et les traces sont évidemment minimes, et donc on n'a pas évidemment des preuves pour chaque année, mais en tout cas, il y a eu plusieurs grosses phases d'occupation après les pharaons, qui aujourd'hui sont donc perdues, et donc je vais essayer de les retracer avec vous et d'examiner les processus par lesquels elles ont disparu aujourd'hui. Donc on a d'abord eu une occupation grecque et romaine. Donc en fait, à partir de l'invasion par Alexandre le Grand, puis de la romanisation de l'Égypte, on a un déclin de Thèbes, certes, ce n'est plus la capitale, mais on a toujours une occupation, on a toujours des communautés locales, et on a même une réinterprétation de ce paysage qui devient un paysage touristique. Pour la première fois, donc on a des empereurs romains qui se rendent visiter la nécropole, comme Adrien ou Vespasien. On a également des historiens grecs qui font des incursions dans la région, comme Strabon. Et donc, ces communautés gréco-romaines s'établissent également sur le site de la nécropole pharaonique et réutilisent les monuments du patrimoine en les réendotant de nouvelles significations. Alors, on a notamment les temples qui deviennent des villages, donc à l'image du temple de Ramsès III à Medinet Abou, qui en fait abrite à partir de l'époque grecque un village qu'on appelle Djémé et qui croît à l'époque romaine. Ce village est habité par entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de personnes. Les traces ne permettent pas un inventaire fixe. On a une prêtrise importante, puisqu'on construit un temple grec au IIe siècle. Les villageois exercent différentes processions dans la nécropole, qui implique qu'ils interagissent avec ce paysage. Donc, ils sont bergers, ils sont négociants en vin. Tout ça, c'est indiqué par le cimetière qu'on a retrouvé à côté du temple, qui date des IIIe et IVe siècles. Et puis, donc, ils réutilisent également les tombes. Et donc, ils réemploient les tombes de l'élite égyptienne pour en faire leur propre tombeau, des caveaux familiaux, donc de famille grecque puis romaine. Et donc, par exemple, on a la tombe de Djéhou Timosé, qui a vécu durant les Ramsès, qui est d'abord réutilisée par 5 générations d'une famille grecque successivement, et puis qui est réutilisée par une famille romaine au second siècle de notre ère, dont on a d'ailleurs encore les noms. Donc, on a Sautère, son père Cornelius ou sa fille Cléopâtre. Et donc, en fait, ils ne détruisent pas les espaces pharaoniques. Ils les remodèlent, donc ils ajoutent des murs de briques, d'argile à l'intérieur des tombes pour pouvoir les segmenter et isoler les corps. Ils réemploient l'iconographie, qu'ils protègent parfois à l'aide de boue. Donc aujourd'hui, on retrouve l'iconographie pharaonique derrière de nouvelles iconographies. D'ailleurs, ils réemploient également l'iconographie pharaonique, puisqu'ils reprennent des motifs qu'ils trouvent là aussi dans les temples, dans les tombes aux alentours, et qu'ils mettent sur leur propre cercueil, tout en ajoutant de nouveaux types de biens funéraires, évidemment. Mais donc, ils ne renient ni ne refusent ce passé, mais en tout cas négocient avec et le mélangent à leurs propres usages et interprétations. Alors, comment est-ce que tout ça a en partie disparu aujourd'hui? Eh bien, déjà, dans l'égyptologie traditionnelle, on a quand même une conception où l'égyptologie s'arrête après les pharaons et l'Égypte ancienne s'arrête avec l'invasion d'Alexandre. Évidemment, je fais des généralités, mais je parle surtout de l'égyptologie classique et ancienne. Aujourd'hui, évidemment, on progresse. Mais en tout cas, au moins au début des explorations archéologiques, on a vraiment un traitement des matériaux pharaoniques qui est largement supérieur à celui de tous les matériaux post-pharaoniques, notamment grecs et romains. Ce qui fait qu'en fait, on rencontre forcément les strates ultérieures en fouillant, mais elles sont sous-évaluées, sous-interprétées et très rarement mentionnées dans les rapports de fouilles. C'est très compliqué de trouver ça. Même quand on sait que les archéologues ont rencontré ces ruines, ils ne publient pas les résultats de recherche. À cela s'ajoute un discours officiel du gouvernement égyptien qui qualifie toutes ces réutilisations grecques et romaines de profanation. Donc ça, c'est un mot du ministre des Antiquités en Égypte, et donc qui considère vraiment que les réusages grecs et romains endommagent l'identité pharaonique du lieu, voire l'essence pharaonique du lieu, donc contribuant vraiment à établir cette perspective unique d'un lieu pharaonique, ce qui montre bien que la création du patrimoine est tout de même un acte politique. Et donc, comment ça se traduit concrètement? Donc, il y a une marginalisation, évidemment, des restes archéologiques. Aujourd'hui, on n'a pas de compilation moderne de ce Thèbes grec romain. On peut le retrouver à travers des preuves indirectes, donc des récits d'époque, comme le récit de Strabon, qui vient et qui décrit les ruines et les villages qu'il aperçoit. Et puis ensuite, on passe directement au récit des premiers voyageurs au XVIe jusqu'au XXe siècle, qui décrivent voir des momies grecques, des momies romaines, qui font des transcriptions d'inscriptions de tombes et de labels. Évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de fouilles, mais qui restent partielles, donc une tombe ou un cas d'étude, mais il nous faut encore cette compilation qui nous manque. Et puis, la dernière étape, c'est au-delà de l'effacement, c'est donc la destruction, puisque le village grec et romain qui se situait dans l'enceinte du temple de Ramsès III a été détruit d'abord partiellement par un archéologue, Georges Darécy, en 1889, puis par un autre archéologue, Théodore Davis, en 1912, sur la demande d'un directeur des antiquités français, Gaston Maspero. Et enfin, il a été définitivement nettoyé par l'Oriental Institute de Chicago dans les années 30. Et donc, en fait, le souci est que même aujourd'hui, on continue de parler de nettoyage pour la destruction de ces restes grecs et romains. C'est un terme assez neutre et politiquement correct, mais qui cache en fait le fait qu'aujourd'hui, tout ce patrimoine a disparu. Ensuite, donc, les Grecs sont un peu partis, et puis on a eu une arrivée de la chrétienté en Égypte à partir du IVe siècle. Surtout au 5e et 8e siècle, on a eu beaucoup d'ermites qui ont emménagé dans ce paysage. Et donc, on a eu, là encore, un réemploi de nos deux principaux types de patrimoine. De façon schématique, évidemment, c'est jamais aussi propre que ça, mais donc on a d'abord eu un réusage des tombes qui deviennent des ermitages. Donc, en fait, les Coptes développent beaucoup de structures monastiques sur tout ce paysage, et une grande partie sont anchorites, donc des hommes, souvent des prêtres, qui transforment les tombes de l'époque pharaonique en ermitage où ils mènent une vie isolée de prière. On a beaucoup, beaucoup de documentation, notamment sur un moine qui s'appelait Frangé et qui vivait avec son disciple Moïse. Donc, ils ont été établis dans une tombe pharaonique, la tombe d'Amenemopée, au 8e siècle. Et donc là, ils ont vraiment vécu. Ici, on a des traces, par exemple, la fosse que vous voyez, c'est là où ils rangeaient leur machine à tisser. Donc, ils s'occupaient en tissant, en négociant avec des prêts d'argent, en écrivant des lettres à leurs amis moines qui vivaient également dans la nécropole. Et donc, on retrouve des amphores, des ostracas, où il racontait également des faits qui se passaient dans la nécropole. Donc ça, c'est vraiment un cas où on a une bonne documentation d'un réemploi de tombes. Et puis, ils réutilisent également les tombes et les temples pour construire des monastères, puisqu'on a également des communautés de vie qui se forment sur cette nécropole à l'époque. Donc, notamment avec une réutilisation des tombes, on peut relier plusieurs tombes qu'on complète en construisant des bâtiments de terre ou de briques d'argile. Donc, on a par exemple un monastère, le monastère d'Épiphane, qui est construit autour de la tombe d'un vizir du Moyen-Empire, donc qui est composé de plusieurs tombes, d'une tour et de cellules monacales. On a également le monastère de Syriac, qui est construit autour de 6 tombes du Nouvel Empire. Et donc, en fait, les moines s'occupaient là aussi par la finance, l'artisanat, le tissage, avec une économie locale assez intense entre les moines et les communautés laïques. On a également, donc, ici, vous voyez le monastère de Foibamon, qui est construit sur la troisième terrasse d'un grand temple pharaonique construit par Hatshepsut, et donc qui a heureusement été photographié avant sa destruction. On a également l'exemple d'un monastère de Deir el-Baharit, qui comptait une communauté de 70 moines. Le cas est assez intéressant, parce qu'il est construit sur une pyramide de la 18e dynastie. Et il réutilise des matériaux et des briques pharaoniques, où on a encore des hiéroglyphes, dans les chapelles. Donc, on a vraiment une imbrication des périodes avec ces deux types de patrimoine. Donc là, vous avez également une large structure qui a été interprétée comme étant un monastère sur l'une des collines où on retrouve des tombes. Et puis, donc, cette image. Enfin, les moines et les communautés de l'époque construisent également des églises dans les patrimoines qui les ont précédés. Donc, ils construisent des églises dans les tombes, mais également dans les temples, dans les cours des temples. Et donc là, c'est une basilique qui a été très bien documentée. Donc, elle s'appelle l'église sacrée de Djémé. Elle se trouvait dans le temple de Ramsès III, dans la deuxième cour du temple de Ramsès III. Et donc, elle a été construite entre le 5e et le 7e siècle. Elle n'est qu'une parmi d'autres. Donc, on avait une église dans le temple de Séti, dans le temple de Ramsès II, et puis également dans des temples ptolémaïques qui ont été réemployés pour devenir des églises coptes. Donc, on voit vraiment que les Coptes ne rejettent pas entièrement les constructions pharaoniques comme païennes, mais vraiment qu'ils les réemploient pour de nouvelles pratiques. Et donc, comme avant, la nécropole vit, les moines traversent la nécropole, effectuent des activités économiques, sociales, visitent des églises pour participer à l'Eucharistie, s'envoient des lettres, vendent des produits entre eux. Comment est-ce que tout ça a été perdu ? Encore une fois, des destructions de l'archéologie dite moderne sont vraiment à blâmer, au moins en partie. Donc, le monastère de Foibamon a été détruit par deux égyptologues français, par Auguste Mariette en 1858, chef du service des antiquités, et puis par Édouard Naville en 1893. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de traces. Évidemment, on retrouve des iconographies à l'intérieur du temple d'Hatshepsut, mais en tout cas, en termes de structure patrimoniale, l'essentiel a été perdu. Et donc, aujourd'hui, on ne conserve que le nom, puisque ce temple s'appelle Deir el-Bahari, ce qui veut dire le monastère du Nord. Malheureusement, il n'y a plus de monastère à cet endroit. La grande basilique de Djémé, que je vous ai également montré, elle aussi a été détruite lors d'une campagne de fouilles entre 1859 et 1899. C'est difficile d'identifier la date exacte, puisque les rapports ne la mentionnent pas. Mais en tout cas, il y a un point où on sait qu'elle a disparu. Et puis, donc, en dehors des destructions, violentes, mais qui restent quand même marginales, il y a toujours aussi une exclusion de la recherche, puisque si parfois, en égyptologie, on inclut les Grecs et les Romains, la période copte et chrétienne est quand même assez rarement inclue dans les projets. Et là aussi, on manque d'un recensement systématique des structures qui ont été érigées ou réutilisées par les Coptes à Thèbes. On sait là aussi que certaines missions ont fouillé des ruines coptes, par exemple le village copte qui a été établi autour d'un temple pharaonique de Séti, mais les résultats n'ont pas été publiés. Et donc aujourd'hui, on a évidemment toujours des progrès. Donc on a notamment une mission allemande qui se targue de lancer un projet interdisciplinaire qui place à égalité les ruines pharaoniques et les ruines coptes. Et je trouve ça très louable à l'échelle individuelle, mais c'est vrai qu'à l'échelle collective, c'est quand même assez significatif de l'état de l'archéologie thébaine que ça soit considéré comme innovant de traiter à égalité ces deux périodes. Enfin, ah oui, donc vous avez un petit résumé schématique, mais donc je veux passer à l'époque moderne. Donc les Coptes abandonnent Thèbes au 8e siècle, et là, les sources textuelles s'arrêtent. On n'a plus les sources sur lesquelles je me suis basée jusqu'ici, donc les ostracas, les papyrus, les récits d'historiens. Et donc, on dit souvent que Thèbes a été désertée après leur départ. Pourtant, il n'y a pas de preuves suffisantes que ce paysage ait jamais été désert. Il y a plutôt de bons arguments pour le fait qu'il y ait eu une occupation continue. Bien sûr, pas à la même intensité, mais en tout cas, on a toujours des généalogies, notamment des généalogies de tribus qui arrivent avec l'islam et qui racontent les conflits locaux pendant tout le Moyen-Âge. Néanmoins, je vais quand même passer le Moyen-Âge puisque je n'ai pas assez de sources, mais pour passer à l'époque moderne, donc à partir plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, où on a donc des communautés qu'on retrouve, on commence à trouver dans les sources des voyageurs à cette époque-là, qui sont probablement héritées de l'arrivée de ces tribus avec l'islam. Et donc là aussi, on a des réutilisations des types de patrimoine pharaonique, notamment les temples, qui deviennent encore une fois des villages, ce qui est un usage qui a quand même été maintenu depuis l'époque grecque et romaine. Donc on a un voyageur en 1722 qui recense la présence de 5 villages à Thèbes. Et de façon intéressante, tous ces villages sont établis autour de sites pharaoniques. Donc sur la rive est, on a des villages autour des temples de Louxor et de Karnak. Et sur la rive ouest, qui nous concerne, autour du port antique et autour de deux temples, Séti Ier et Medinet Abou, le temple de Ramsès III qui a été occupé par les Grecs, les Romains, les Coptes et donc maintenant à l'époque moderne. Et donc là, c'est là que commence l'histoire de ce village de Gourna, autour de ce temple de Séti Ier. Donc on construit des maisons de briques d'argile à l'intérieur des cours du temple et autour du temple. On a également le témoignage d'une mosquée qui existait, qu'on a perdue également, et puis d'un cimetière avec notamment des grandes tombes qui ont été dessinées ici par Robert Hay au XIXe siècle, et qu'on croit distinguer comme l'une au moins étant fatimide, mais là aussi les interprétations sont difficiles. Et puis surtout, on a une réutilisation des tombes qui deviennent des refuges. En fait, l'utilisation du paysage au XVIIe et XVIIIe siècle se caractérise par la mobilité. Les villageois vivent dans la plaine, et donc depuis la plaine où ils vivent autour des temples, ils ont une bonne vue sur le Nil, ce qui leur permet de voir le grabuge arriver, et quand le grabuge arrive, ils se réfugient sur les flancs des collines, dans les tombes pharaoniques, qui deviennent leurs abris. Alors ils se réfugient de phénomènes naturels comme les inondations du Nil, ils se réfugient aussi d'agressions humaines, des recrutements forcés par les Mamelouks puis les Ottomans, des collecteurs d'impôts, des Bédouins qui maraudent et plus tard de l'expédition de Napoléon. Et donc la montagne n'est plus ce site sacré où l'on vient se faire enterrer, mais ça devient ce refuge imprenable où personne n'osera les suivre. Puis, progressivement, on passe à un usage des tombes comme de maisons. Et cette fois, c'est la première fois que ça se passe. Et donc, ça commence à partir de 1820. Et donc là, on a une introduction de réemploi de tombes comme de domicile de particuliers qui est introduit par les voyageurs étrangers, notamment par les archéologues. Certains aménagent vraiment des maisons dans des tombes où ils restent durant des années. Donc, on a notamment Sir Gardner Wilkinson, qui est considéré comme un pionnier de l'archéologie britannique, qui emménage la tombe d'Amosé, qui était un gouverneur sous le Nouvel Empire, et qui ajoute des structures de briques, donc des chambres, un bureau, une salle à manger, une cuisine, et même un pigeonnier et une tour. Et donc, il y reste pendant longtemps, il abrite ses amis, égyptologues, politiciens. Et donc, cette maison a une longue durée de vie, puisqu'on la retrouve occupée jusqu'au XXe siècle, son dernier occupant étant un artiste américain et sa famille. Et donc, c'est celle que vous apercevez sur la gauche. Et puis, sur la droite, on aperçoit celle également de l'agent du consul britannique en charge de rechercher des antiquités dans la zone. C'est sa maison au premier plan. Et puis, au second plan, vous voyez une énorme maison rouge qui est celle de Wilkinson, en fait, avec ses deux tours et ses remparts. Les tombes, donc ça, voilà, c'est la vue de la tombe aujourd'hui. Donc, en fait, vous reconnaissez la porte où se tient la jeune femme et devant l'une des entrées de la tombe pharaonique, qui, évidemment, la structure a disparu. A disparu aujourd'hui. Et puis, vous avez également un usage des tombes comme espace de travail des archéologues. Donc ça, c'est un cliché pris durant la mission de Howard Carter qui découvre la tombe de Toutankhamon parmi d'autres. Et donc, on a vraiment une réutilisation de la nécropole à cette époque-ci, puisque la tombe de Ramsès XI devient une cantine, la tombe de Séti II, un laboratoire de conservation, et puis la tombe de Ramsès IV, une maison de fouilles. Enfin, les tombes sont utilisées par les communautés locales égyptiennes comme leur propre maison, donc elles empruntent cet usage aux archéologues et donc se quittent la plaine inondable du Nil où elles vivaient jusqu'ici pour s'établir sur les flancs des collines. Et donc là, on a toujours la même chose, l'utilisation de murs de briques qu'on rajoute, comme à l'époque des Grecs, pour créer des espaces de stockage et des chambres. Les Égyptiens sont assez conscients des conditions environnementales de ces tombes. Ce sont des endroits d'ombre, des endroits aérés. Et donc, ils adaptent les lieux, les hôtels deviennent des placards, les corridors deviennent des chambres d'enfants, et le village s'étend avec les générations. Néanmoins, et donc là aussi on a perdu ce type de patrimoine aujourd'hui, notamment à cause des destructions contemporaines. Donc on a eu beaucoup de phénomènes de résistance locaux au XVIIIe et XIXe siècle, et donc c'est arrivé plusieurs fois qu'un gouverneur local mette le feu à des tombes pour en faire sortir les habitants. Et puis Napoléon par exemple a fait exploser une tombe pour en chasser ses occupants, et donc aujourd'hui on n'a toujours pas réussi à localiser cette tombe qui a à peu près disparu. Toujours pas évidemment d'attention dans la recherche. On a des preuves partielles dans les tombes, des pipes ottomanes, des morceaux de céramique, notamment des pipes dans la tombe qui avait été l'ermitage du moine Franget. Mais donc, il n'y a pas de recherche sur ces villages du XVIIe siècle, ce qui est assez étonnant que les 1300 dernières années d'occupation d'une nécropole et l'histoire de cette Égypte rurale et villageoise n'aient pas été étudiées dans un pays qui est quand même majoritairement agricole et villageois. Et puis, donc, on a terminé avec la destruction de ce village dans les années 2000, malgré des efforts de préservation de certains archéologues qui avaient des projets de sauvegarder au moins quelques maisons, témoignage des 300 dernières années d'occupation. Malheureusement, tout a été détruit, sauf quelques maisons. Donc là, vous avez l'avant-après. Les seules choses qui subsistent sont les maisons des archéologues et puis une dizaine de maisons vides qui servent de lieux de tournage de cinéma. En conclusion, on a donc un paysage qui est quand même qui a une histoire riche de réutilisation. Je trouve que c'est assez emblématique de voilà, c'est un peu une vaste histoire de l'humanité, de comment est-ce que ces tombes et ces temples ont été réutilisés et réalloués en termes de signification et d'usage. Et j'espère que si un jour vous avez la chance de vous rendre dans cette nécropole qui aujourd'hui n'est qu'un désert parsemé de tombes et de temples, vous pourrez réimaginer les Cléopâtres, Théodore Davis et les autres occupants de ce lieu qui l'ont marqué depuis 2000 ans. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Alors, vous ne nous avez pas facilité la tâche parce qu'après de si douloureuses disparitions, ça va être assez compliqué de dire que nous avons pris de notre côté, Lily Davnas et moi-même, le sujet en considérant. Finalement, on parle de patrimoine absent et de faire parler les silences de l'histoire. Dans le sens, au contraire, de l'absence comme patrimoine et du fait que le silence est aussi une qualité. C'est difficile, après vous. moi, je me reposais pour cela sur plusieurs sentiments nés à la fois de recherche et de l'exercice de notre métier dans le cadre des monuments historiques. Le souvenir d'une documentaliste dans un service précédent me disant, tu sais, l'absence d'information est une information. Et c'est vraiment sur ce point que nous avons abordé les choses, une façon de faire de l'histoire un peu comme John Cage fait de la musique en considérant que le silence a un prix et aussi qu'il est là où peuvent naître les choses, reprendre le terme que Hegel employait à propos du moment, vous savez, où on fait un nœud à son mouchoir pour se rappeler de quelque chose, et puis on a le nœud, et puis on ne sait plus du tout pourquoi on avait fait un nœud à son mouchoir, et où Hegel dit qu'il devient alors un étant simplement disponible. Et cette disponibilité nous paraissait une qualité intéressante à vous faire valoir et à vous raconter à travers deux chantiers. Et je laisse Lily Davnas présenter le sien, et puis je reviendrai avec le mien. Je vais vous parler d'un chantier achevé depuis relativement longtemps, puisqu'il s'est achevé en 2016, il avait commencé en 2011. C'est donc déjà de l'histoire, mais nous sommes là pour ça. Il se passe à Souvigny, dans l'Allier, dans l'ex-région Auvergne, enfin à l'époque c'était région Auvergne. Souvigny, c'est une abbaye d'abord, fondée en 920, puis à l'époque l'une des cinq filles de Cluny, et puis réduite au rang de prieuré en 1100, et surtout, et avant tout, nécropole des cires depuis le XIe siècle et jusqu'au XIVe. En l'occurrence, elle cesse d'être nécropole des cires sous Saint-Louis, qui, donnant son fils à... Pardon, je vais y arriver. qui, donnant son fils à une fille d'Archambault, élit Paris comme lieu de nécropole. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il va y avoir retour de nécropole avec Louis II, Louis II de Bourbon, qui va choisir, revenant duc de Bourbon, choisir de revenir à Souvigny et d'y faire ériger son tombeau. L'intérieur de Souvigny a fait l'objet d'une restauration relativement importante, qui s'est terminée en 2010 et qui a tendu à retrouver, à restituer en fait, un dernier état connu trouvé par sondage d'un enduit blanc et jaune qui était un enduit 17e Et qui est venu habiller, c'est le moins qu'on puisse dire, l'intérieur de la nef. Lorsque je rencontre en tant que dossier Souvigny, c'est dans cet état effectivement qu'il est, avec au centre de la nef les tombeaux des deux abbés de Cluny, Mailleul et Odilon, qui viennent de faire l'objet d'une restauration importante, puisque retrouvés en 2416 morceaux suite à l'histoire que je vais vous raconter, ils ont été intégralement restitués au centre de la nef. Ce qui va nous occuper dans mon intervention, c'est une toute petite partie du prieuré de Souvigny, qui est la chapelle vieille. La chapelle vieille, c'est le lieu dans lequel Louis II de Bourbon et Anne Dauphine d'Auvergne, vont trouver leur sépulture. Ça n'était pas le premier choix de Louis II de Bourbon, qui, dans l'ensemble de ses testaments, à partir de 1393, va demander à être enterré dans le cœur de Souvigny. Son retour à Souvigny mérite bien ça, mais ce n'est pas tout à fait l'avis des moines. Et soit qu'il s'agisse d'une opposition forte des moines, soit que, comme l'histoire nous le laisse, il s'agisse d'un problème d'état sanitaire du cœur, il n'empêche que Louis II, dans son dernier testament en 1409, va consentir à se replier dans la chapelle vieille qu'il vient de faire construire et qui se trouve dans l'un des bas-côtés de la nef. Ce que vous avez sous les yeux, c'est, vu du dessus, son gisant, flanqué de pleurants, avec des baies gothiques, et puis figurant Anne, qui le suivra dans le tombeau 5 ans plus tard, et puis Louis II de Bourbon, mort en 1410. Et cela m'amène à considérer que la question de l'absence dans nos métiers nous impose d'en établir une typologie, c'est-à-dire de se dire que l'absence ou le manque n'est pas un grand tout du vide, un grand tout de l'absence, mais qu'il existe un grand nombre de manques et que la première intelligence que l'on peut avoir de ces manques est d'essayer de les qualifier, d'essayer de les comprendre, d'essayer d'en comprendre la raison, la nature et la disponibilité. Et je vous ai mis dans ce seul chantier 3 types de manques, finalement: la disparition, comme aurait dit Pérec, l'éviction ou la présence en creux. La disparition d'abord. Alors, je vais m'intéresser à la première travée de la chapelle vieille, et plus exactement à ces 4 voûtins qui ont constitué le début du chantier. Ce que vous voyez ici, c'est l'état après sondage, puisque les 4 voûtins recouverts d'un badigeon blanc ont fait l'objet d'un sondage suite à l'observation. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Suite à l'observation, dans le badigeon, vous voyez ici 2 fantômes qui semblaient transparaître et qui nous avaient laissé penser que quelque chose se cachait sous le badigeon. Grand bien nous en fit, puisque, comme vous le voyez, les sondages qui ont été pratiqués ici montrent que non seulement il y a quelque chose en dessous, mais que ce quelque chose mérite quand même assez nettement que l'on s'y intéresse. Nous avons donc, et je vous passe car nous n'avons pas le temps, les nombreux aléas administratifs et de recours qui ont ponctué ce chantier. Le dégagement et la restauration est confié à l'extraordinaire Didier Legrand, qui est un très très grand restaurateur de peinture murale. Et voici ce que le dégagement nous laisse apparaître. C'est absolument extraordinaire. C'est ici l'état après restauration. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a une très très belle étude de Didier Legrand qui nous renseigne et qui nous laisse penser que lorsqu'en 1409, Louis II de Bourbon modifie son testament, eh bien, il faut faire vite parce qu'il ne va pas très bien et puis parce que la chapelle vieille n'est pas totalement achevée. Nous n'avons pas la commande qui a présidé à ce décor, mais il semble bien que ce décor ait été commandé du vivant du duc. Sachant que le duc est à la fois grand connaisseur et tout à fait en capacité de mobiliser des très grandes mains, mais par ailleurs totalement désargenté. Et c'est très exactement ce que l'on a sous les yeux, c'est-à-dire 2 grandes mains que l'on n'est évidemment pas arrivé à identifier, mais une pauvreté d'exécution qui fait que la nature des enduits qui ont présidé à la pose de la peinture murale sont extrêmement grossiers et que par ailleurs, on est allé chercher des matériaux qui sont des matériaux moins riches que ce qu'on aurait espéré sur une chapelle mortuaire de Louis II de Bourbon. On a d'abord des mains qui probablement ne sont pas des mains de peinture murale, mais des mains d'enlumineur, puisqu'on a fait appel à des techniques qui ne sont pas des techniques de peinture murale et qui sont plutôt des imprimituras sur bois ordinairement. Vous le voyez ici, on est un peu tacheté. Pourquoi on est tacheté ? Parce qu'il y a des petites étoiles de cire qui étaient antérieurement dorées et qui faisait relief sur le ciel d'azur qui portait les anges chantant la Gloria. Ciel d'azur, vous allez me dire, l'azur est quand même un peu chargé. En l'occurrence, il est beige. Pourquoi est-il beige ? Parce que là encore, on est allé chercher non pas le lapis lazuli qu'on aurait été en droit d'espérer pour un azur au-dessus de la tête de Louis de Bourbon, mais on est allé chercher de l'azurite. L'azurite, c'est beaucoup moins cher, l'azurite, c'est beaucoup moins loin. En 1410, on a des carrières d'azurite dans le Rhône, donc on est juste à côté, sauf que l'azurite, eh bien, ça s'abîme beaucoup. Avec le temps, avec la lumière, ça malaquise, c'est-à-dire que ça forme une croûte verte assez caractéristique, croûte qui s'épaissit et qui tombe tout naturellement. Nous n'avons donc plus l'azurite ici. L'azurite est absent pour une raison technique. Et là, on voit que l'absence, finalement, si l'on cherche à la combler, on va perdre véritablement la puissance des choses, le ponctum, comme aurait dit Roland Barthes, le fait que lorsque je vois cette peinture, elle me point parce qu'elle est extraordinairement arrivée jusqu'à nous et qu'elle est extraordinairement réalisée. L'architecte en chef des monuments historiques qui assurait, pas dans sa qualité d'architecte en chef, mais il est architecte en chef par ailleurs, en tant qu'architecte du patrimoine qui assurait cette restauration, souhaitait la restitution du bleu d'azur en considérant qu'un ciel qui n'est pas bleu n'est pas un ciel. Vous conviendrez avec moi qu'on n'a pas beaucoup de mal à considérer que ces anges sont dans le ciel, étant donné leur place architecturale et la structure de leur vol. Par contre, réintégrer le bleu aurait fait que le fond vient devant la forme, c'est-à-dire que le bleu aurait été à l'avant des anges, il aurait fallu aussi réintervenir sur les anges, et nous voilà perdus l'original, et voilà l'absence finalement qui prend plus d'absence que ce qui est présent. Je n'ai pas résisté à vous mettre quelques détails de l'extraordinaire notation musicale qui ponctue ces anges, on peut chanter la Gloria avec eux, puisqu'elle est entièrement notée. Deuxième type de manque, l'éviction. L'éviction, c'est quoi ? En l'occurrence, c'est une décision. Comme ce que Lily nous disait pour Saint-Jean de Maurienne, on a la trace des décisions qui ont présidé à l'ensemble de la destruction. J'essaye de faire vite. À l'ensemble de la destruction, puisque les troupes de Joseph Fouché s'installe à Moulins juste avant qu'il n'arrive à Lyon pour y instaurer la terreur en 1793. Et il y a ordre donné aux sacristains de briser la totalité des symboles qui ponctuent l'abbaye de Souvigny. Les deux gisants qui sont là, c'est Mailleul et Odilon. Comme je vous le disais, retrouvés en 2496 pièces, tout simplement parce qu'elles ont été martelées. Et a été martelée aussi la clôture de chœur qui entoure la chapelle vieille de Louis II et d'Anne d'Auvergne. Et ce que vous voyez en partie sommitale, c'est ce qui reste d'une ceinture de fleurs de lys qui ont été à la perche très systématiquement bûchées pour être abattues. Nous réunissons alors dans le dossier un comité scientifique destiné à nous aider à comprendre l'état dans lequel on trouve la chapelle vieille et surtout ce qu'il faut en faire. Je ne vais pas vous lire la totalité puisqu'on me dit que mon temps est écoulé, mais en l'occurrence, le parti souhaite se distinguer assez nettement de ce qui avait été fait jusqu'ici à Souvigny, c'est-à-dire se distinguer très nettement de la restitution en considérant que puisque les fleurs de lys ne sont pas là, leur absence est en soi une strate historique. C'est une différence avec ce qu'on avait fait précédemment dans la chapelle neuve, puisqu'on a restauré la chapelle neuve avant la chapelle vieille, que voulez-vous, puisqu'ici, vous avez la restitution d'une fleur de lys qui avait été bûchée par les troupes de Fouché et que l'on a mise en exemple restituée dans la chapelle neuve. l'avis de l'État est allé sur le fait que l'importance historique de cet ensemble majeur doit nous contraindre à une réflexion approfondie. Je ne vous lis pas tout, mais le manque même est une strate historique qu'il ne faut pas intégralement restaurer au risque de nier un acte symbolique qui est fondateur de notre État présent. Je fais la troisième et je conclue. Donc, la clôture et les anges. Et voilà la troisième. Je voulais quand même vous la montrer parce que ce serait dommage. Les gisants eux-mêmes qui sont à la fois martelés et recouverts de graffitis. Je vous ai dit la présence en creux. Pourquoi ? Parce que les graffitis remontent au XVIIe siècle. Ils sont effectivement un enlèvement de matière. Nous avons une absence de matière. Mais ils sont la présence de celui qui était là et qui a voulu être aux côtés du souverain et imprimer à quel point il était là. Nous avons donc choisi d'avoir un nettoyage qui soit léger, qui n'aille pas jusque dans le fond de gravure. Je vous remets l'avis de l'État qui demande que le nettoyage ne soit pas complet et que l'on ne comble pas les graffitis. Et voilà l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec de près la présence qui est encore lisible, le redressement du buste d'Anne d'Auvergne, mais non pas le complément de ce qui a été bûché, dont nous n'avons de toute façon pas trace, ou en tout cas pas trace crédible. Et vous voyez ici la trace des fleurs de lys du coussin sur lequel repose la tête du duc qui ont été bûchées. Voilà.
Je vous remercie toutes trois vraiment pour ces interventions passionnantes. S'il y a une ou deux questions dans la salle, on peut les prendre assez rapidement.
Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, j'aurais une question pour Madame Ardouin de Lorme. Les raisons en fait de cet effacement de ces strates après l'époque pharaonique, est-ce qu'il y a en Égypte en ce moment, est-ce que vous pouvez un peu plus développer en fait les raisons, si c'est le gouvernement égyptien ou est-ce qu'il y a des communautés, par exemple la communauté copte, qui essayent de s'approprier un peu ce patrimoine absent?
Alors, merci pour cette question. Les raisons de l'effacement, c'est difficile à résumer et à théoriser parce qu'évidemment, la plupart des personnes n'expliquent pas. À l'époque, des premiers archéologues qui étudient le site dans les années 1820, c'est clairement une volonté de nettoyage. Les ruines grecques, romaines, coptes, islamiques sont considérées comme étant des saletés, enfin des dérangements à ce qui les intéresse vraiment et ce qui est la période pharaonique. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi une dimension politique. Restituer le site tel qu'il a été ou tel qu'on le suppose avoir été à l'époque pharaonique, c'est aussi une façon qu'instrumentalisent les partis nationalistes de s'affirmer comme étant une nation héritière des pharaons. D'ailleurs, ça dépasse plus largement le site Thébain, puisqu'on organise régulièrement des processions. Je ne sais pas si vous avez vu l'ouverture du nouveau musée au Caire, mais toutes les momies défilaient dans les rues avec des soldats. Donc voilà, c'est quelque chose de plus large. Voilà, ça, c'est pour les raisons du côté du gouvernement. Et puis, l'implication de l'UNESCO, qui était un peu mon point de départ d'étude, est quand même assez flou. Je dirais que l'UNESCO elle-même a contribué à diffuser l'idée que c'était un site pharaonique. Longtemps, sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, on avait la qualification de Thèbes comme étant un témoignage de l'Égypte à son summum, ce qui est quand même un peu terrible pour les 3000 ans d'Égypte qui ont suivi. La phrase a été supprimée depuis. Mais voilà, en tout cas, l'UNESCO a même eu des recommandations un peu contradictoires concernant la conservation de ce site. Elle a recommandé que le village soit documenté avant sa destruction, ce que le gouvernement n'a pas fait. Mais voilà, en tout cas, il y avait au moins une volonté de documentation. C'est un peu confus, mais en tout cas, voilà, c'est différentes pistes de réponse.
Oui, merci. C'est toujours concernant l'Égypte. Une petite question, c'est que en Égypte, moi, j'ai été en Égypte, j'ai vu un peu les sites que vous avez montrés tout à l'heure. Donc, je vois aussi qu'il y a où le patrimoine est représenté, c'est-à-dire à travers les musées. Vous avez l'époque pharaonique qui est représentée à travers les musées, le musée du Caire. Et vous avez l'époque gréco-romaine qui est représentée à travers le musée gréco-romain à Alexandrie. Vous avez aussi l'époque copte qui est représentée et l'époque musulmane qui est représentée. Donc aujourd'hui, ma préoccupation, c'est à travers le patrimoine absent ou disparu, que fait ces musées? Que fait ces musées et que font aussi les missions d'archéologie actuellement en Égypte? Merci.
Merci pour cette question. Effectivement, je parle que du site que je connais. Effectivement, on a des musées qui étudient les périodes. Que font les musées et les missions sur ce site? Les musées, je ne sais pas. On n'a pas de musée pour l'instant de la nécropole. Il y avait eu un projet de créer un musée local sur tout ce qui concerne la période post-pharaonique. Néanmoins, il devait être abrité dans la maison d'un archéologue qui a été détruite en 2009. Que font les missions? Je pense vraiment qu'on a un grand progrès. On a de plus en plus de missions qui s'intéressent à l'époque copte. Pour la période post-copte, c'est un peu plus difficile puisque tout a quand même été rasé, sachant également que les bulldozers qui sont venus entre 2005 et 2010 n'ont pas que détruit les villages. Forcément, quand on fait venir des bulldozers sur une colline qui est comme un fromage à trous, ça détruit tout ce qui est en dessous également. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on a des missions. Et donc, on a notamment une mission aujourd'hui de l'Université de Cambridge qui fouille dans les ruines des maisons modernes et qui trouve dedans aussi bien des amphores grecques que des objets contemporains. Donc on a par exemple une étude anthropologique des amulettes modernes, des poupées modernes, des objets d'artisanat qui étaient fabriqués par les Égyptiens sur place. Et donc peu à peu, on a une archéologie de la destruction qui étudie les modes de vie des habitants sur ces 50 dernières années. Mais voilà, tout ça reste partiel et c'est évidemment dommage qu'on le fasse que maintenant, une fois que le village est détruit, ça aurait été plus simple de le faire avant. Mais voilà, en tout cas, voilà, on a des efforts partiels et je vous invite à suivre le site si vous vous y intéressez, c'est quand même assez intéressant. Merci.